Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau One Shot où on va parler d'un mode de financement un peu particulier qui est le crowdfunding. Et pour l'occasion, je reçois Charlotte Jouriot, autrice du manga Allegoria, qui est en cours de crowdfunding. On est dans la dernière semaine, édité chez Keep on Dream. Bonjour Charlotte, comment ça va ?
Bonjour, ça va bien et toi ?
Bah écoute, super, je suis ravi de t'avoir. Ça me permet d'aborder un nouveau sujet dans le podcast et je pense que c'est intéressant que les auditeurs découvrent un petit peu cette manière un peu atypique de financer les mangas aujourd'hui par la communauté. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit peu connaissance, histoire que les auditeurs te connaissent. Donc, tu es autrice de manga ou de bande dessinée, je ne sais pas dans quel cas tu veux te ranger.
Plus de manga, mais après j'ai la formation qui me permet de faire de la bande dessinée aussi, si jamais. Mais pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé de façon professionnelle, en tout cas.
Ça serait intéressant aussi de voir quelle formation tu as suivie, si ça peut donner un peu la lumière à certains qui veulent se lancer dans l'aventure, pourquoi pas. Avant ça, on va s'intéresser un peu à toi. C'est quoi ton rapport au manga ? On va commencer par le début.
Moi, j'ai commencé à lire des mangas plutôt jeune, début collège, je dirais. Mais c'était vraiment l'époque où les lecteurs de mangas, c'était un petit peu des bullies, des gens qu'on mettait sur le côté, des gens bizarres. C'était pas du tout à la mode à l'époque, le manga. Et du coup, ça faisait un petit peu... N'est-ce pas ? Ça faisait un petit peu de nous, des marginaux, etc. Et je suis rentrée dans la communauté comme ça, avec les autres fans de manga. Je commençais à regarder beaucoup d'animés sur Game One à l'époque.
Ouais. C'est de quelle génération, si c'est pas indiscret ?
Je suis née en 98, donc je sais pas comment s'appelle cette génération, mais...
Ouais, bon, t'es une 90, quoi. Ouais. 98, ok, d'accord, très bien.
C'est ça.
T'étais sur la fin, entre guillemets, du côté, c'est un peu honteux de lire des mangas, faut pas trop le dire. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que les rapports, quand même, on va le dire aux auditeurs, et ils le savent, ça s'est un peu inversé. Maintenant, les geeks sont devenus presque les rois du monde.
Un petit peu.
Ouais, alors qu'avant, on était un peu... On était au bon, quoi.
Ouais. Bref. C'est ça. Okay. C'est ça, mais... Ça a été une période, puis... c'est vrai que j'ai vraiment vécu, je me souviens, dans ma génération, le fait que les mangas deviennent stylés au fur et à mesure.
Et cette
au collège, au collège, c'était vraiment... on était les marginaux. Et puis quand on est arrivé au lycée, directement, on est passé de nul à stylé. C'était vraiment bien. Ça a commencé vraiment à se populariser. J'ai fait mes premières Japan Expo en 2013 et tout. J'étais un bébé. Donc,
déguisé ou pas déguisé ?
Ah ouais, mais c'était des costumes horribles. C'était des trucs... vaut mieux pas voir les photos. Mais bon, c'était vraiment bien. Hein.
Il traîne un peu quelque part. Voudrait en cacher, plus, mais...
C'est mes grands-parents qui m'accompagnaient à l'époque. Ils y connaissaient rien. Ils se connaissent toujours rien, d'ailleurs. Ouais. Mais bon,
c'était facile de les convaincre. Ils voulaient te faire plaisir, donc ils t'accompagnaient. C'est des choses que tu ne peux pas faire avec les parents.
C'est ça. Et du coup, moi, j'ai commencé un peu avec Game One, etc. Je me souviens vraiment d'une anecdote très précise, c'est que quand on m'a dit, une amie à moi au collège me dit « Regarde Naruto sur Game One, c'est trop bien ». Je regarde, l'opening se lance et c'était un opening qui commençait en noir et blanc. Et moi, j'ai pensé que c'était le générique de fin. Du coup, j'ai zappé en me disant « J'ai loupé ». Je ne suis pas arrivée à la bonne heure alors que c'était l'opening.
Alors là, je suis en train de réfléchir. Toi. Alors, les auditeurs, je pense qu'ils ont peut-être trouvé. Parce que moi, Naruto, j'ai vu la partie classique, j'ai envie de dire. Je n'ai pas vu Shippuden.
C'est dans Shippuden.
C'est pour ça. Donc moi, du coup, tu vois, après, je suis resté sur le petit papier. Et je ne suis pas trop, on va dire, manga. Enfin, je ne suis pas trop animé. Je vais y arriver. C'est vrai que je ne suis pas trop calé sur les animes. Donc je pense que les auditeurs ont déjà retrouvé. Ils vont me dire, c'est celui-là. Donc mettez-le dans les commentaires si vous l'avez. C'est toujours intéressant. Ça nous aidera de chercher.
J'ai zappé en me disant, mince, j'ai loupé le coche. Et puis le lendemain, j'ai regardé. Et c'était un épisode donc j'ai pris en plein milieu de la série. Je n'ai pas commencé par le début.
Okay.
C'était Game One. J'étais en mode, waouh, mais ça a l'air si compliqué. Ça m'intéresse. Et du coup, j'ai acheté les mangas. Et puis, j'ai commencé par Naruto. Puis après, c'est parti. C'est parti.
Ton premier manga, c'est Naruto.
Alors, premier manga que je lisais en sachant que c'était un manga, oui. Sinon, le tout premier, de plus loin que je me souvienne, ça s'appelait Le Royaume des Couleurs. Et ça passait sur Tiji à l'époque.
Et Le Royaume des Couleurs. Ça me parle pas du tout. Ok.
C'était l'histoire d'une petite fille. Alors ça passait sur une chaîne pour enfants. Et on se souvient encore avec mes frères et sœurs du générique tellement on a poncé ce truc. Mais c'était une petite princesse. Ses parents se faisaient transformer en pierre et elle devait partir dans une sorte de voyage initiatique pour pour retrouver le... Elle avait du temps et tout, le temps était compté pour ses parents, et elle devait régler, corriger tous ses défauts qui étaient représentés par des légumes qu'elle pouvait
Ok.
invoquer à chaque moment, et
Ah ouais?
il fallait qu'elle corrige tous ses défauts pour sauver ses parents.
Et c'est un only anime ou il y a une version manga qui existe aussi?
Moi, je l'ai vu qu'en animé, je ne l'ai pas vu en manga, mais
D'accord.
ce qui est sûr, c'est que
Je suis
l'animé
en train de
existe
vérifier
et...
si ça existe en manga. Dans la privée, ça n'existe pas en manga. Donc ça va être une production japonaise uniquement pour l'animation. Donc ok. Le Royaume des couleurs.
incroyable.
Donc, tu vois, là, ça me parle pas du tout, mais ok, d'accord. Et c'était du japonais du coup. C'était fait par des japonais
Oh,
à
oui.
destination. Ok. Ok.
Mais
Et après, on te fait.
le générique était en français, par contre, donc
Oui,
c'était...
bah oui. On était encore dans l'époque où on faisait les génériques en français. Après, on a
C'est ça.
accepté les chanteurs japonais pour justement avoir un peu plus une vibe japonaise, quoi. Et après, tes types de lecture, je pense qu'ils ont évolué. Aujourd'hui, t'es plutôt. On va commencer par du shonen, mais est-ce que tu fais du
Ouais.
seinen, du shoujo, du josei On passe, il y a plein d'autres genres, mais je passe. C'est quoi ton genre de prédilection que tu prends plaisir à
Mon
lire?
genre de prédilection, j'ai été très longtemps dans le post-apo.
Ouais, d'accord.
Dans le
Alors, quand
post-apo,
je
dans
dis genre,
l'écriture.
je corrige ce que je vais me faire taper sur les doigts. Ta classe, ton type de manga, parce que le shonen et le seinen ne sont pas des genres, c'est une classification éditoriale.
C'est
Je
ça.
reformule, vous inquiétez pas. Mais, donc, tu es plutôt post-apo, donc ça serait plutôt des choses qu'on va retrouver plutôt dans la classe éditoriale, plutôt seinen, du coup.
Ouais, plutôt ça.
Ok.
Après, en ce moment, en fait, j'ai pas vraiment de genre à proprement parler. Je suis plus des fixettes sur des œuvres pendant une période
Ok.
plus ou moins longue.
Ok.
Et en ce moment, je fais une fixette sur l'Atelier des sorciers.
Ouais, que j'ai toujours pas commencé, il paraît que c'est super, mais oui.
Puis, en fait, moi, ce que j'aime directement, c'est le style de dessin, la
Ah, le
façon.
dessin est chouette. J'ai lu les deux, trois
Incroyable.
premiers chapitres pour voir un peu la vibe, et je trouvais ça
Ouais.
chouette, mais j'avais pas de temps à accorder, donc voilà, bref, mais j'y reviendrai, je pense.
C'est vraiment un petit. C'est vraiment des petites gouttes de bonheur dans la vie, ce manga. C'est vraiment super bien. J'ai eu ma période Promised Neverland. J'ai eu une période qui est toujours en cours sur tout ce qui touche à Pokémon.
Ok, d'accord. Donc tu parles des mangas, des jeux vidéo, tout ça, quoi, tout, tout, tout.
Tout, les
Ok.
musiques, tout, absolument tout.
Les
Je pense
cartes
que même.
aussi? Ah oui, tout, d'accord.
Là, derrière moi, je ne sais pas si tu vois un petit peu, il y a des petits Pokémon un peu partout, mais alors surtout là, j'ai une pièce de collection dans un cadre. J'ai un caleçon dédicacé par le chanteur des génériques, Jean-Marc-Anthony Cabella.
Le français, ah oui, celui qui a fait les
Oui.
génériques français, du coup. D'accord, alors c'est pas
Ouais.
très visuel pour les gens qui nous écoutent, mais voilà, tu as un
Mais
cadre derrière avec un caleçon dédicacé, donc c'est une belle petite anecdote, hein, je dois avouer.
C'était un des moments les plus honteux de ma vie. Vraiment, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je suis arrivée, je lui ai montré un caleçon Magikarp et j'ai fait, vous pouvez signer. Il y a eu un gros blanc. C'était horrible. C'était
D'accord, mais il te
horrible.
l'a signé.
Mais ah, il me l'a signé
T'as
comment
fait une
dire?
demande atypique, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait eu ce genre de demande, donc il se souviendra peut-être de toi.
On n'a qu'une vie. Voilà.
Voilà,
Et j'avais qu'un
faut y aller.
caleçon Magikarp, donc voilà.
Ouais. D'accord, c'est plutôt original. Et dans tout ça, alors qu'est-ce qui t'a amené à te dire je vais faire mangaka, quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce qui t'a décidé? Puis qu'est-ce que tu as fait justement pour devenir mangaka? On en parlait en off. Que tu as fait une école, mais ça peut être intéressant justement de nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver justement à Allegoria.
Eh bien, j'ai commencé à dessiner pendant un peu ma période manga. Je dessinais au collège avec mes amis.
Ok.
Bon, au début, on blaguait un peu, on se disait, on va devenir mangaka, ça va être trop bien et tout. On avait un petit peu cette image, on idolâtrait le concept d'être mangaka en fait. On se rendait pas trop compte du travail que ça demandait. Et puis, au fur et à mesure, faut dire que j'avais une famille qui m'encourageait énormément dans ce que j'aimais et qui
Ah, c'est
m'encourage
bien
toujours
ça.
d'ailleurs.
Ah oui.
Mais donc, j'avais pas forcément des profs et des notes qui suivaient au collège, du moins. Et
OK.
je suis quelqu'un d'un peu têtu. Quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, je fais tout pour montrer que je peux le faire.
D'accord.
Et c'est un petit peu comme ça que je tiens, en quelque sorte.
Ouais, c'est un bon leitmotiv, il n'y a pas à dire. Enfin, des fois, il faut savoir s'accrocher à ses rêves, comme diraient certains. Donc.
Donc au début, un petit peu par esprit de contradiction, je me suis mise, j'ai acheté le japonais pour les nuls. J'allais au CDI, je révisais ça.
Ok.
Et une fois que je suis arrivée à l'orientation au lycée, j'ai pris un lycée qui faisait LV3 japonais.
Ça existe?
Ça existe.
Ah ouais, purée.
Et du coup,
Ça, de
j'ai
mon époque, ça
fait.
n'existait pas. Hein.
Ouais.
Je suis la caution vieux con de cet épisode. Je tiens à le préciser, mais ça n'existait pas de mon époque. D'accord. C'est
Bah,
chouette.
du coup, je suis allée dans un lycée, lycée Jacques Monod, à Saint-Jean-de-Bray. Je suis allée en option japonais, où pendant
Ouais.
3 ans, du coup, bah, j'ai fait LV3, puis j'ai passé mon bac de japonais.
Ouais, parce que tu avais une motivation que tu pouvais raccrocher en fait à l'univers des mangas et de l'animation. Ça devait être beaucoup plus ludique, parce que tu devais forcément
Oui.
pratiquer en regardant les animés en japonais.
Bah, dans tous les cas, je me disais, je peux pas faire mangaka, parce que moi, dans mon idée à cette époque-là, c'était je veux faire mangaka au Japon.
Ah oui, d'accord, ok.
Du coup, dans mon idée, je me disais, je ne peux pas faire mangaka au Japon si je parle pas japonais. Donc, on va commencer par. Il y avait des lycées qui faisaient spécialité dessin d'autres langues, et je me suis dit, il faut que je priorise les langues, en fait, et je dessine à côté, et voilà. Donc,
Ok.
du coup, j'ai fait ça dans cette optique-là. Ce qui fait que, après, je suis arrivée en études sup. Et en études sup, par contre, je me suis dit, on va prendre une école qui fait de la BD, du manga et tout. Sauf que j'ai atterri dans une école dont je ne citerai pas le nom car elle est ignoble. C'est une école, en gros, qui se vantait, et peut-être qu'ils se vantent toujours, je ne sais même pas si elle existe encore, de faire des formations vraiment axées manga, etc. Avec une formation classique à côté. On se disait avec mes parents, la dualité, le truc qui est un truc.
Complémentaire, ouais. D'avoir les études à côté, le côté formation, dessin, ouais, c'est
Le côté art tradi, anatomie, etc. Et puis de l'autre côté, faire de la BD, ça m'enchantait. Et puis surtout, ce qui m'enchantait, c'est que la troisième année, elle était au Japon, dans une université jumelée. Sauf qu'il fallait extrêmement bien parler japonais. Il fallait être en gros dans les meilleurs de la promo. Et heureusement pour moi, on n'était pas beaucoup dans la promo. Et surtout, on n'était pas beaucoup à avoir fait 3 ans de japonais avant. Donc
tu
du
touches en
coup.
japonais un peu quand même. Enfin, tu touches en japonais quand même.
Oui, ça allait. Au bout de 3 ans, il faut dire que ma prof de lycée était vraiment super. Pour le coup, elle était stricte, sévère. Parfois, c'était dur au niveau des notes, mais au moins, quand je suis arrivée là-bas, j'avais les bonnes bases.
Ouais, c'est important.
Ouais. Donc du coup, j'ai vécu 2 voire 3 vu qu'ils ont eu des problèmes avec mon visa l'école, parce que vu que c'était pas une école sérieuse, l'ambassade ne voulait pas nous donner de visa étudiant.
Ah, ok.
Non, c'était très compliqué. Du coup, j'ai eu 1 an de retard sur ma formation. C'était 3 ans et je suis partie au bout de la quatrième année. Il y
Forcément
a un
3 ans
an,
payants, je suppose. Ça n'était pas gratuit,
bien,
cette école.
bien
Évidemment, tant
entendu,
qu'à faire. Oui.
bien entendu. Mais après, il y a des choses qui se sont faites de mon côté et du leur. On s'est arrangé pour pas que je paye 4 ans quand même. Ça aurait été
Ouais.
horrible. Et du coup, je réussis à rentrer dans cette université et je suis jumelée donc avec l'université de Ōgaki. Ōgaki, c'est dans la région de Gifu.
Ça me parle pas.
Gifu, alors est-ce que tu vois où est Nagoya?
C'est le sud?
C'est Honshu, donc c'est l'île principale, c'est à 6 heures de Tokyo au sud.
Ok, ouais, c'est
C'est
ça, c'est le sud.
plus près de Osaka, Kyoto, Kobe et tout ça.
Ok, d'accord. On sent le petit accent là quand tu commences à prononcer le nom, il y a un peu de maîtrise de japonais et voilà. Ok, d'accord, ça donne le
Suis
ton
pas ça pour
niveau.
me la péter, hein, je précise.
Non, non, mais tu prononces comme on doit prononcer normalement les mots, donc il n'y a pas de souci.
Parle un peu du
On
nez quand je parle
écorche
japonais.
et on écorche tous les noms japonais quand on doit citer les noms, mais c'est pas grave, on parle pas japonais, donc on peut se permettre. Mais
Oui,
toi,
c'est pas grave,
évidemment.
c'est pas grave. Il y a juste les gens qui disent Osaka au lieu de Osaka, j'ai quand même
Alors ça, je
envie de
dis quand même
taper.
Osaka. Ouais, toi,
Oui,
il y
quand
a quand même
même.
deux, trois trucs. Je fais des arts martiaux japonais.
Ah.
Donc, je fais attention à bien prononcer quand même les mots
Oh,
en
c'est cool
prononçant
ça.
le R en L. Tout, on a... Mais après, c'est que des
Ouais.
techniques en lien avec l'art martial, tu vois. Donc,
Ouais.
on sait compter, je sais compter jusqu'à 5.
Ah, c'est
Voilà,
bien,
donc toi,
mais c'est
c'est
déjà
déjà
ça.
ça. C'est déjà ça, ouais, tu vois. Mais, non, mais c'est ma seule approche. J'ai fait, moi, un semestre hein, pour les auditeurs et pour aussi de l'expliquer. J'ai fait un semestre d'initiation au japonais quand je me
Ouais.
suis perdu à la fac dans mes jeunes années. J'ai adoré. Mais
Faut dire
sauf
que
que
c'est une belle langue.
c'était. Ouais. Ce qui est freinant, c'est tout l'apprentissage des pictogrammes. Moi, j'appelle ça des pictogrammes, mais c'est des.
Les hiragana, les katakana, les kanji, ouais.
Vraiment, c'est du par cœur, pur par cœur, pour
Oui, c'est
vraiment
ça.
les retenir. Et ce qui est sympa, je trouvais, c'est que tu pouvais aussi. J'avais un copain, moi, à l'époque, qui m'avait ramené le manga, le premier tome de Beck, le manga sur la musique.
Ouais,
En
ouais,
japonais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, et c'est là que tu te rends compte que bah, même pour les jeunes, l'apprentissage des kanji est pas évident parce que tu es à des niveaux, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et
ouais.
dans
Oh.
beaucoup de mangas, ils te mettent le kanji et tu as sur les côtés, tu as la
Oui.
transcription en hiragana.
Ça s'appelle des furigana.
Des furigana.
C'est ça, c'est les furigana qui sont sur les côtés des kanji pour simplifier la lecture.
Et c'est en fait, ça reprend le syllabaire hiragana, du coup, quand même. Mais ça, on donne un autre nom parce que c'est sur le côté de...
Ça reste d'hiragana, normal, mais en petit à côté d'un kanji.
Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super et j'avais essayé un petit peu de décrypter, mais c'est très, très dur. Parce que si tu n'as pas les sigles en tête, c'est un gros frein. Mais par contre, après, c'est une langue en termes de grammaire qui est ultra simple.
Tu mets
les verbes à la fin. Et, alors, je dis ultra simple, attention, c'est ultra simple par rapport à nous.
Oui.
On se tape des subjonctifs du plus que parfait, de machin, et c'est horrible.
Alors, après, le japonais a aussi ses... Genre, je ne sais pas jusqu'où tu es allé dans ton initiation, mais il y a quand même...
J'ai fait un semestre, hein, donc voilà, je n'ai pas été très loin.
Bah, par exemple, il y a quand même un délire en japonais, alors c'est que les adjectifs se conjuguent, donc ça, c'est quand même une dinguerie.
Ça, on ne l'avait pas vu, ça, mais oui, ok.
Alors, les adjectifs se conjuguent. Alors, c'est pas en fonction du genre et du nombre. C'est en fonction de si c'est positif, négatif, passé, présent, futur. Il y a un petit tableau avec 4 cases et tu remplis en fonction de ça. Il y a des façons, comment dire, il y a des sortes de formulations pour dire telle ou telle chose qui, pour dire autre chose, nous font rajouter un mot, puis un mot, puis un mot, puis changer un autre. Ce qui fait que c'est une langue agglutinante. Parfois, on a des phrases... à rallonge pour dire un truc très simple en français.
Même si j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui, la jeune génération japonaise a tendance un peu à sortir du classicisme de la langue, à essayer de raccourcir au maximum et trouver des trucs, des mots plus raccourcis pour en fait dire la même chose, quoi. Et du coup, faire des phrases plus légères.
Alors, il y a de l'argot, évidemment, il y a des dialectes. Oui. Là où j'habitais, il y avait le dialecte de la région du Kansai qui n'était pas loin.
Ah! La fameuse qui fait débat pour Roku Dineshi Blues, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est que notre personnage vient du Kansai et que, si je dis pas de bêtises, je voudrais pas que les gens du Furium tombent dessus parce que je maîtrise pas tout ce truc là, mais je crois que c'est une du Kansai.
Je comprends pas tout quand on me parle en dialecte du Kansai, ça c'est sûr.
Ouais, ça peut s'entendre. Ouais.
Mais en plus de la langue donc, qui s'agglutine, il y a les niveaux de politesse. Et alors ça, c'est un autre délire.
Mais ça, je l'avais vu, ça. Je l'avais vu parce que pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de mon art martial, on a des niveaux de graduation de politesse. Et puis, je l'avais vu parce que forcément, c'est des termes qui reviennent énormément dans les mangas. Mm-hmm. L'utilisation du senpai, du sensei... Voilà, tous ces mots que tu peux utiliser pour désigner ton frère, ta sœur, ton maître, ton apprenti. Voilà. Et ça, tu vois qu'il y a un niveau de hiérarchie. Ça hiérarchise beaucoup au Japon.
Ouais. Il y a en fonction de si tu parles juste en mode poli, si tu élèves la personne par rapport à toi et si tu te rabaisses par rapport à elle, le verbe se conjugue même pas de la même manière.
Oui, enfin, on l'avait vu, ça. On n'était pas rentré dans le détail, mais on avait esquissé le truc. Toi. Tu voyais un peu.
Mais moi, je ne sais pas le faire correctement, ça, parce que quand je bossais là-bas, ce n'est pas que j'étais familière avec mes patrons, mais au bout d'un moment, on se parlait juste poliment, sans avoir à en faire des tonnes. Ce qui était plutôt pratique pour moi, parce que du coup, je n'avais pas à faire 36 000 pirouettes linguistiques pour essayer de me faire comprendre.
Et du coup, question, hormis, on va volontairement passer... sur le côté un peu logistique et puis des agréments que tu as pu avoir à cette école. Est-ce que c'est du coup, une première question, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà apporté? Est-ce que tu as appris des choses? Et la question, c'est qu'est-ce que tu as fait en stage au Japon? C'était quoi le but de ce... Est-ce que c'était pour apprendre à dessiner là-bas? Ou est-ce que tu as fait un vrai boulot? Tu vois, c'est... Donc, première question, est-ce que tu en ressors quand même au niveau du stage? Est-ce que tu penses que déjà tu as progressé en passant par une école que de passer tout seul? Et on enlève tout le négatif, on reste sur le positif,
oui.
Tu vois.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais non, mais je suis pas là pour parler d'eux spécialement, mais en ce qui concerne certains professeurs, alors pas tous évidemment, vu qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là aussi, mais il y a quand même certains professeurs, quand on prend des cours, qui nous apportent vraiment quelque chose. Moi, je pense notamment à... J'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Yannick François, qui est quelqu'un qui faisait de la sculpture, de la peinture, donc lui, il était professeur de modèle vivant. Vraiment, lui... Il m'a apporté beaucoup parce qu'on ne peut pas dessiner ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas vu. On prend souvent des références, on prend souvent des modèles quand on dessine. Quand on fait du manga, mine de rien, on dessine beaucoup de corps en action, on doit bien connaître les proportions. Et le manga, c'est avant tout une caricature, quelque chose qui part du réel, qui est déformé. Et si on ne connaît pas notre outil de base, à savoir le corps humain, l'anatomie, la perspective et tout ça, Et je disais, oui, on peut pas dessiner ce qu'on connaît pas. Donc, on est obligé, pour pouvoir dessiner du manga, de savoir dessiner des choses qui n'en sont pas forcément, ou du moins pas dans ce style-là.
D'accord.
Donc, du coup, ouais, les cours d'anatomie m'ont beaucoup servi. Les cours de technique en tout genre, de type aquarelle, gouache, acrylique, reproduction d'œuvres, comment ça s'appelle? Ah, des copies de maître, voilà. Faire des copies de
OK.
maître, c'est super important. Et je dirais que ce qui est super important et ce qu'on nous. Comment dire? Ce qu'on nous apprend pas à l'école, c'est que c'est super important de copier. De copier, copier, copier. Il n'y a que comme ça. De toute façon, c'est la base de tout apprentissage.
Tu recopies un dessin quand tu veux apprendre à dessiner, tu prends un dessin qui est déjà fait et tu le recopies, tu essaies de refaire à l'identique. On passe tous par là, bien
C'est
sûr.
ça, tu veux marcher, tu te lèves, tu fais comme tes parents, tu essaies de marcher. Pas sûr que ce soit très concluant tout de suite,
Mais
mais
c'est ce qui permet après d'adapter ton style. Une fois que tu maîtrises ça, tu peux adapter ton style une fois d'avoir bien
c'est ça.
maîtrisé la base, quoi. Ouais, je
C'est
comprends.
ça. Et faut pas, surtout pas essayer de comment dire, d'idolâtrer ce qu'on voit, mais surtout essayer de le comprendre. Que quand on voit une œuvre et qu'on se dit purée, c'est trop bien dessiné, faut pas se dire. Moi, je veux avoir l'air stylé comme ça. Je veux dessiner et que les gens trouvent que c'est stylé. Il faut avant tout que nous, on trouve pour nous-mêmes que c'est super stylé. Et donc, comment on fait? On regarde le dessin, on se dit comment il a fait. On essaye de reproduire. On y va petit trait par petit trait. Comment dire? Encreur par encreur, pinceau par pinceau. On teste tout et on voit. Parce qu'il n'y a pas de technique magique, ça dépend de notre affinité avec le matériel, ça dépend de notre affinité avec le support, ça dépend de tellement de choses. Il faut juste s'essayer à plein de techniques.
Bien
Et
sûr.
c'est ça vraiment que m'a appris le cours d'art plus traditionnel, en quelque sorte. De tester plein de choses, de ne pas avoir peur de me planter. Et même si je suis en train de me planter, aller jusqu'au bout du dessin, ça c'est important. Ne pas
Bien
laisser
sûr.
des feuilles vides. C'est même le plus dur, ça je trouve. C'est même le plus dur. À part ça, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose dans cette école qui valait la peine d'être retenue. Par contre, quand je suis arrivée au Japon,
Voilà, c'était ma deuxième question, tout à fait, ouais.
quand je suis arrivée au Japon, j'ai fait un. Donc, j'avais fait un séminaire en France avec un professeur de l'université donc où j'allais. Et ce professeur, entre-temps, il s'est mis à son compte en tant que mangaka. Et ce que les gens comprennent pas, ou du moins c'est pas popularisé, c'est que mangaka au Japon, ça englobe pas que les auteurs du Shonen Jump ou de je sais pas quel
C'est aussi
magazine.
assistant, je suppose.
C'est pas qu'assistant. En fait, les mangaka, c'est tout ce qui touche au dessin là-bas. C'est tout ce qui est illustrateur, c'est toutes les petits yonkoma qu'on trouve dans les journaux, c'est
Alors,
les pubs.
explique pour les auditeurs ce que c'est les Yonkoma, comme tu
Les
dis.
yonkoma, c'est des petites BD, des petits mangas en quatre cases.
C'est des strips, en fait, un peu comme chez nous.
Voilà,
C'est les. Ouais, c'est ça,
exactement.
d'accord.
Qui racontent une petite histoire ou qui illustrent quelque chose. Mais mangaka, ça englobe aussi ceux qui font les petites annonces, les petits dessins mignons dans le métro pour te dire de ne pas dépasser la ligne jaune.
C'est le mot dessinateur, pour qu'on nous on dit c'est un dessinateur,
C'est ça.
illustrateur. Ah, mais c'est bien parce que c'est bien de le préciser parce qu'on ne voit peut-être qu'une partie de du métier, quoi.
C'est ça, les gens ils associent beaucoup mangaka au fait d'être comment dire d'être famous et d'être dans le Shonen Jump et de pas avoir de vie. Or c'est pas ça du tout. Dans la plupart des cas, 90% des mangaka vous les connaissez pas en fait. Ils sont là tous les jours, ils font toutes les illustrations et tous les petits trucs mignons que vous voyez au Japon. À ce moment-là, j'arrive à l'université. Et juste avant d'y entrer, donc je suis encore en France, c'est ce professeur qui me contacte parce que je lui envoyais régulièrement mes projets. Parce que même quand on n'a pas de projet ou pas de devoir, il faut s'exercer. Donc je participais à des concours, mais sans grande conviction. Et puis à l'époque, je n'étais pas si forte que ça. Donc voilà, mais je continuais quand même. Et là, il me dit, OK, là vraiment, tu as bien progressé. Est-ce que tu veux être assistante dans mon atelier quand tu arrives au Japon?
Tu avais déjà un peu ton stage, quoi.
Alors, il n'y avait pas de stage, pour le coup. Moi, après les cours, ce que je faisais, c'est que j'allais dans son atelier. Il venait me chercher après les cours. Un petit peu comme si c'était mon père, quoi. Et j'étais avec deux autres assistantes qui, elles, avaient. Donc, elles étaient mères au foyer de base. Et elles faisaient des petits boulots à droite, à gauche pour survivre, tout simplement. Et assistant, ça paye pas beaucoup. Donc, je ne sais pas comment elle faisait. Mais toujours est-il que, du coup, j'étais avec ces deux femmes et ce mangaka qui s'appelait Hiroyuki Watanabe. Et lui, en fait, il a monté son entreprise pour faire des petits mangas pour expliquer à travers de la fiction l'histoire de la région de Gifu, là où on se trouvait. Et donc c'est des petits mangas qui font entre 80 et 100 pages. Et moi, je m'occupais des décors, de la trame, des décors et de la trame des personnages. Et donc, quand je vois là, donc je faisais ma journée de cours normale.
Parce que tu avais, en fait, on est bien d'accord qu'on resitue bien pour les auditeurs, tu avais des cours aussi au japonais, enfin au Japon. Tu suivais des cours.
Donc, j'étais, oui, Ogaki, c'est pour vous situer un petit peu, c'est donc à côté de Gifu qui est la plus grosse ville, c'est vraiment la campagne. C'est vraiment la campagne. Donc, tous les cours étaient en japonais. Il n'y avait pas un seul truc en anglais nulle part. Hein, si tu parles pas japonais là-bas, t'es pas bien du tout, je pense. Okay. T'es pas bien. Moi, j'avais des cours, donc j'avais cours d'art traditionnel, si je me souviens bien. Il y avait des cours de sculpture, mais moi, c'était pas compatible avec mon emploi du temps. Donc du manga, où on avait une deadline, un suivi, comme un suivi éditorial, mais avec un professeur. Et puis j'avais, qu'est-ce que j'avais ? Ah, j'avais du graphic design pour me servir de Photoshop, Illustrator, et des cours de dessin digital. Avec tablette graphique, etc.
Ça, donc, tu as fait ça pendant 6 mois, c'est ça ?
C'est ça, 6 mois.
Ok. Donc, c'est hyper enrichissant, finalement. Toi, bon,
ah oui.
Si on a le côté vraiment de l'école et un petit peu le parcours un peu compliqué, tu termines un petit peu en apothéose au Japon, en étant assistante d'un mangaka. Donc, c'est hyper enrichissant et hyper. C'est de la bonne expérience qu'on va prendre, en tout cas.
C'est ça. C'est
donc, ça, c'était en quelle année ? Si je calcule bien, c'était 2020, 2021 ? Non, c'est dans ces eaux-là ?
Oh, bien avant 2019.
D'accord. Juste avant le Covid. Bien, bon timing.
C'est ça, 2018-2019 dans ces eaux-là. Parce qu'après, moi, je suis restée au Japon un petit moment et en fait, j'ai vécu le Covid au Japon.
Ah,
et c'est ça
qui
m'a fait rentrer.
D'accord. Ouais, parce que tu pourrais y être toujours aujourd'hui si...
S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que j'y serais toujours.
Ok, d'accord.
J'y serais toujours. Mais bon, la vie fait que. Du coup, ouais, c'était bien. J'ai passé 6 mois là-bas. J'ai eu mon diplôme. Donc c'est une sorte de diplôme qui atteste que j'ai fait une formation de manga.
C'est bon à prendre.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt cool, c'est la classe. Mais je tiens à préciser qu'on n'a pas besoin de diplôme pour être mangaka, quand même. Parce que moi j'ai fait ça en me disant que ce serait un plus dans le métier et que ça me donnerait une légitimité parce que le problème, je trouve, c'est que les auteurs, même encore aujourd'hui et même si j'ai un diplôme, on est vraiment dévalorisés dans notre métier. On cherche tout le temps à nous payer le moins possible. On cherche tout le temps à nous décrédibiliser d'une façon ou d'une autre, que ce soit bien amené ou pas, de telle sorte à nous laisser dans une situation précaire et à se faire plein d'argent sur notre dos, concrètement. Donc,
les mentalités changent un peu, quand même, il faut le dire. Ça commence un peu.
Les mentalités changent doucement, trop doucement à mon goût.
Ouais,
mais
on part de loin.
On part de loin. Mais bon, je savais qu'on n'avait pas besoin de diplôme pour faire mangaka. Mais quand j'y suis allée, je me suis dit, j'ai besoin de ça pour me sentir légitime.
Ouais, c'était un truc important pour toi. Donc, encore une fois, on a tous notre parcours pour partir d'un point A puis arriver à un point B et de se dire, j'y suis là parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et encore une fois, c'est tout à ton honneur, hein, pour le coup. Hein.
Bah, j'ai fait de mon mieux pour aller jusqu'au bout du truc. Après ça, je suis retournée à Tokyo. Et à Tokyo, donc, c'était plus l'université qui prenait en charge mes cours, mais c'était l'école. Et l'école en question, vu qu'elle n'était pas ouf, on n'avait pas de cours.
D'accord.
Je suis arrivée à Tokyo pour la faire très courte. On avait un logement qui était insalubre et on n'avait pas de cours, ou alors très peu. Et pour le peu de cours qu'on avait, c'était des profs qui ne savaient même pas ce qu'ils devaient nous enseigner. Donc, on n'avait pas de salle de classe, rien.
Bien organisé, quoi.
Ils venaient même à domicile. Sans matériel, sans savoir ce qu'on allait faire. Donc, c'était un peu une cata. Suite à ça, vu que j'ai remarqué que je ne pourrais rien tirer de la situation et que ça ne m'apprenait rien de plus, surtout que moi, vu que je suis revenue à Tokyo, tout mon cercle social était à Gifu.
Ah oui ?
Je ne pouvais plus être assistante à Gifu en étant à Tokyo. Et mon visa se finissait, du coup, je suis rentrée en France une première fois. Une fois que je suis rentrée en France, j'avais directement pour idée de repartir. Mais j'avais plus un rond, j'avais plus la certitude d'avoir un travail là-bas. Et surtout, vu que j'étais rentrée trop tôt, j'ai pas eu le temps de passer mes diplômes de japonais. Le JLPT, ça s'appelle. Vu que j'avais rien d'autre à faire en France, je me refais un visa PVT pour le Japon. Je pars en me disant « YOLO, on y va ». C'est parti.
Le permis vacances-travail, hein, pour ceux qui
ne
voudraient pas l'abréviation, je me permets de traduire.
Et je me dis, on n'a qu'une vie, c'est parti, t'as pas un rond, mais vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre.
Ah bah oui, oui c'est sûr.
Vu qu'en France, t'as rien à faire. Donc j'y vais avec le reste de mes économies. Et j'arrive, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail, j'ai juste mon meilleur pote japonais qui m'accueille. Et à partir de là, je retourne dans la région de Gifu, où une de mes amies, très bonnes amies d'ailleurs, aujourd'hui on vit dans la même ville, on est voisines, me dit « Viens vivre avec moi », vu qu'elle faisait la même école et donc le même cursus universitaire, parce que je suis toute seule dans une coloc avec une Sri Lankaise. Donc je m'incruste dans la coloc, je paye le loyer et tout, qui du coup à 3 n'était pas cher du tout. Et je trouve un job de fil en aiguille, grâce à l'association française du coin, je trouve un job de prof d'anglais dans une université de santé. Alors que je n'ai pas de formation de prof d'anglais.
YOLO, comme on dit.
Voilà. De toute façon, je n'allais pas cracher sur un travail. Vraiment pas.
C'est sûr.
Donc, je reste 6 mois, pareil. Le temps que mon ami soit diplômé aussi de la même université. Et je donne des cours d'anglais à droite, à gauche.
Tu dessines en parallèle aussi, je suppose. Enfin, tu continues de dessiner en parallèle.
Oui. D'ailleurs, c'est là que je commence le premier chapitre d'Allegoria. Mais vraiment, à ce moment-là, c'est la fin d'un projet que j'avais commencé pour la fin de mes études, que du coup, j'avais pas terminé avec l'école.
D'accord.
Et je me dis, il faut toujours terminer ce qu'on a commencé, peu importe combien de temps ça prend. Et du coup, je le termine et je me dis, au pire, je le présente à des maisons d'édition. Mais manque de bol, au moment où je veux faire ça, le Covid arrive. Et donc là, mon ami rentre, j'ai plus trop de raisons de rester à Gifu. Et moi, je veux me présenter mon taf à des éditeurs. Du coup, je bouge sur Tokyo pour la deuxième fois. Sauf que c'est le Covid et tous les éditeurs sont fermés. Donc, il y a un truc qui s'appelle les mochikomi. C'est un truc où tu viens en personne, genre au Shonen Jump, à Kodansha, ce que tu veux, et tu présentes ton travail et tu as des retours en direct sur ce que tu as fait.
Ok. Et tu as testé ça ?
Eh bien, au début, je ne pouvais pas. Je pouvais le faire qu'à distance. Donc, je commence à essayer d'écrire mes pauvres petits mails en japonais dans la forme la plus polie que je peux. Et quelqu'un me répond. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un tanto au Shonen Jump, donc à Shueisha, qui me suit et qui me donne des conseils un peu toutes les semaines sur comment améliorer mon chapitre. Donc, au bout d'un petit moment, je ne l'ai jamais rencontré en vrai à ce moment-là, il me dit « Ouais, on va te faire participer à un concours ».
Et c'était très souvent qu'il y a ça au...
Oui.
Enfin, pour découvrir les nouveaux talents au Japon, ça se fonctionne très souvent, même tout le temps, je pense, par le système de concours.
Et donc, je commence, il me dit tu vas participer à un concours et je te donnerai les résultats et un petit peu les retours une fois que ça sera passé. J'attends un mois et demi. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours pas les résultats du concours. Et je me rends compte aussi que le jury, les jurys à ce moment-là, c'est des mangaka. À ce moment-là, il a été condamné, le jury du mangaka, pourquoi ? Pour un truc attouchement sur mineur, un truc vraiment pas marrant.
Est-ce que tu es en train de me parler de l'auteur de Kenshin qui était dans le,
non,
dans
c'était le
jury ?
C'était le scénariste de Act Age.
Ah ok, d'accord, je vois le manga, mais je... Ok, ah oui,
le dur. Scénariste a fait des trucs pas cool, donc il a été condamné.
Bon, oui.
Ce qui fait que le jury a été annulé et mon éditeur ne m'avait pas prévenu. Du coup, à ce moment-là, donc je suis dévastée. Je me dis, mais pourquoi on m'a rien
tout
dit?
Tout ça pour ça. Bah oui.
C'est ça. Et donc, je demande, les mochikomi viennent de rouvrir. Et donc, je demande un entretien avec l'éditeur. L'éditeur me donne rendez-vous, donc dans les locaux de Shueisha. Donc, c'est trop bien. J'arrive, je me liquéfie.
Ça doit être surréaliste comme ambiance d'atterrir à Shueisha, là où tu sais qu'il y a... littéralement Dragon Ball, Naruto, Bleach, j'en passe, enfin tous les gros bangers qu'on connaît,
oui,
aujourd'hui sont passés par Shueisha et...
C'est ça.
Et tu te dis, ah ok, je suis là.
Les locaux sont impressionnants, en plus on arrive, c'est ça a coupé le souffle. Et donc et alors là ça va être la désillusion, parce que le gars déjà a une demi-heure de retard, donc déjà je me dis c'est pas très sérieux ça.
C'est pour tester.
Moi je suis restée, hein. Je voulais en découdre. Et donc, le gars me fait des retours et tout. Et au bout d'un moment, je lui dis, et du coup, pour le concours, c'est quoi les résultats, etc., machin. Et il me dit, non, mais entre nous, enfin, vous êtes française, en fait. On peut pas. Enfin, il me dit pas réellement. Les Japonais, ils disent pas quand la vie est,
ouais,
négative.
Ils sont assez pudiques là-dessus. Ouais, tout à fait. Ouais.
Ouais. Donc, du coup, le gars me fait comprendre qu'il y a un problème. Et je lui dis, bah, c'est comment je m'améliore. Il fait, non, mais il n'y a pas à s'améliorer. Enfin, vous êtes française, en fait. On prend pas de français dans le magazine. Donc le gars m'avait fait poireauter un mois. J'avais un petit espoir. Le gars m'avait... Après, c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas...
On est d'accord que ce n'est pas le même, c'est pas le même tantôt que tu as eu à distance. Si, c'était le même
si,
ou pas ?
C'était le même.
C'était le même. C'était le même
tantôt. D'accord. Mais après, comme je te dis, tu vois, peut-être que je n'ai pas su interpréter le sous-texte d'un mail, de, entre guillemets, poli. Tu vois ? Peut-être
Ok.
que lui, par politesse, il m'a fait participer au concours, ou peut-être pas, d'ailleurs, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il n'avait pas l'intention de me laisser une chance.
Ouais, mais il a pas voulu, il a été refusé poliment, mais tu l'as peut-être pas pris comme un refus. Et...
Peut-être.
Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Ouais, bien sûr.
Bon, toujours est-il que du coup, je comprends que mon problème, c'est peut-être pas forcément le dessin, là, tout de suite, de but en blanc, mais ma nationalité. Donc là, j'ai un seum intersidéral, parce que je me
Ah oui,
dis
je peux
tout
croire.
ça. Tout ça pour me faire refouler sur le coup de ma nationalité. Alors que bah, je parlais japonais tranquillou. J'avais fait toutes mes bulles en japonais tranquillou. Et j'avais tellement travaillé pour avoir ce niveau de japonais. C'était très très frustrant. Du coup, je ressors de là. J'ai un seum intergalactique. Et
Ouais,
là,
tu m'étonnes.
je me dis, je vais aller me péter le bide. Et j'ai bouffé je sais pas combien d'okonomiyaki. J'ai tellement mangé, dis-toi, ce jour-là, d'okonomiyaki. Que quand je suis rentrée dans le métro pour rentrer chez moi, j'avais une robe un peu qui serrait un peu la taille. J'ai lâché mon bidou. Ça m'a fait un petit bidou tout rond. Il y a quelqu'un qui m'a laissé la place en pensant que j'étais enceinte.
Mince, non, c'est dur là, dur.
Bon, moi,
Ça
ça m'a fait
ferait,
rire. Mais
autrement ça, tu devrais te le garder dans un coin parce que ça ferait un très bon gag manga.
Ah
Voilà,
oui!
ça serait sa place dans un gag manga. Tu vois, le j'ai trop mangé et on te laisse la place. Pas besoin de parler, pas besoin de bulles, juste regarder et
Mais oui, mais
voilà.
c'était. Bah, maintenant, sur le coup,
On
j'ai
rigole,
pas
bien
osé.
sûr.
J'ai pas osé dire. Ah non, j'ai juste beaucoup mangé. J'ai pris la place. J'ai dit merci. Et comme une abrutie, je touchais mon ventre en mode ah, il est beau, mon bébé. C'était terrible.
À ce niveau-là, je pense qu'il y a un tel niveau de OSEF que, bon, voilà,
Oh bah là,
je souhaite jusqu'au fond.
je venais de me faire chier dessus sur le coup de ma nationalité. Donc non, j'avais plus aucun filtre.
Et le premier chapitre que tu as présenté, c'est le premier chapitre d'Allegoria ou c'était un autre projet que tu as
Les deux
présenté?
premiers
Les deux.
chapitres.
D'accord, les deux premiers chapitres d'Allegoria. Ok.
C'est ça. Et donc à partir de là, donc il n'y a pas que ça qui m'a fait rentrer en France. Il y a aussi le fait que la xénophobie a énormément augmenté pendant la période du Covid. Parce que moi, du coup, j'étais au Japon, mais les frontières étaient fermées pour les étrangers. C'était vraiment un délire. Et du coup, il m'arrivait des dingueries, comme par exemple me faire stalker par des chasseurs d'étrangers, mais
Ah oui.
aussi de me faire arrêter par la police pour des contrôles réguliers de visa, en fait. Parce que je me faisais dénoncer par mes voisins. Dès que j'allais faire mes courses, je me faisais arrêter par la
Ah ouais,
police.
l'envers du décor est quand même pas fou quand même, hein. Ok.
Ah non, 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 non,
Ouais.
non. Bah, j'ai vécu des super choses au Japon.
Mais il y a
Tout le
aussi,
reste, mais
ils
il
sont
y a
réputés comme
quand
ça les
même.
Japonais, hein. Ils ont un côté très intégriste, voilà,
Ah
protéger les frontières. Etc. Tout le monde idolâtre le Japon sur plein de choses, mais il y a encore plein de choses politiquement, enfin socialement, où ils sont à la ramasse complète. Et on se dit que bon, on n'est pas si mal en France sur certaines choses par rapport à d'autres pays, notamment le Japon. Voilà. C'est bien pour les
oui.
vacances, mais à y vivre, c'est un autre délire et il faut accepter ce délire-là. Mais après, encore une
C'est ça.
fois,
Alors après, comment
zéro
dire,
critique, hein. C'est du constat.
c'est un avantage et un inconvénient d'être
Bien sûr.
étranger là-bas. Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients. Ça donne lieu à des quiproquos et des situations très cocasses. On les prend bien, on les prend mal. C'est la vie. Mais toujours est-il que pendant le Covid, c'était vraiment devenu insupportable. Je me fais contrôler une fois, ça me fait rire. Deux fois, ça me fait plus rire. Et surtout quand tu dis bonjour à tes voisins qui courent dans leur maison appeler la police, là, c'est horrible. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? À part juste exister. Et bon, après, j'ai appris par la suite que j'avais quand même emménagé dans une ville à Tokyo, la moins chère possible, mais la plus raciste possible aussi.
Bon, et du coup, avec toutes ces péripéties, qu'est-ce qui t'amène justement à réussir à te faire publier et à publier du coup Allegoria? Et puis après, si tu veux, alors assez rapide, et puis comme ça, après, on rentre dans le cœur du sujet pour donner envie aux gens de découvrir ton manga et puis d'aller surtout participer dans cette dernière ligne droite du crowdfunding.
Eh bien, bah du coup, quand je suis rentrée en France pendant le Covid, c'était le confinement. Du coup, bah j'avais rien d'autre à faire que de continuer Allegoria. Donc je continue. Je me dis bah au pire personne le voit et tant pis. Au pire quelques personnes le lisent et tant mieux. Mais j'ai toujours ce truc de, quand je commence un truc, il faut que je le finisse, d'une manière ou d'une autre, peu importe le temps que ça prend, on y va, on le fait. Ça se fera à un moment donné. Et donc, une première maison d'édition qui commençait à se former me propose de publier tout simplement le truc. Donc, ça s'appelait French Mangaka à l'époque. Et alors, pour des raisons bien dramatiques pour eux, ça n'a pas fonctionné. C'était très chaotique comme organisation. Et donc, ils ont quand même fait imprimer le premier tome dans une première édition. Mais pour plein de raisons, je n'ai pas continué avec eux parce que c'était pas assez sérieux. Donc, du coup, je me retrouve avec un premier tome imprimé dont j'ai récupéré les droits entre-temps. Et je ne sais pas trop quoi en faire, mais je connais Keep on Dream. Et ils m'avaient déjà contacté une fois, mais malheureusement pour eux, j'étais déjà chez French Mangaka. Mais vu que mon contrat était fini, je me suis dit, pourquoi pas les recontacter ? Surtout qu'à ce moment-là, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin un petit peu d'aide, j'étais perdue sur comment je peux bien aménager ce tome 2. Parce que bon, on a beau être auteur, ça a beau être un petit peu notre métier, etc. Quand on a tout le temps la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul, on a besoin d'un...
C'est à ça que servent les... On appelle ça Tento au Japon, en France, c'est un nom, mais le nom m'échappe
directeur
à l'instant.
Directeur éditorial.
Ouais, directeur éditorial, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. Mm-hmm.
C'est ça. Et du coup, je les contacte et du coup, ça se fait. Voilà, et c'est comme ça que la campagne de crowdfunding a vu le jour, là, il y a quelques semaines.
Ouais, parce qu'on va le rappeler, hein, donc Keep on Dream finance une grosse partie, voire la quasi-totalité de ses mangas en crowdfunding. Au moment où on enregistre, on peut déjà te dire bravo parce que tu as dépassé en tout cas le palier qui te permet en tout cas d'être publié. L'idée, c'est d'aller chercher d'autres paliers pour faire un tome encore plus quali qu'il aurait été de base.
C'est ça, mais c'est surtout bravo aux gens qui ont participé parce que déjà, le truc a démarré sur les chapeaux de roue en même pas 24 heures, on a atteint les 100% de l'objectif. Alors que c'était un objectif vraiment qui, pour Keep on Dream, était assez haut, parce que c'est deux tomes d'un seul coup. Il y a une réédition du tome 1 que j'avais déjà fait, mais remasterisé, suivi par Keep on Dream comme il faut. Oui. Il y avait des contreparties à faire, donc qui ont un prix, des prints, etc. Et le tome 2. Donc on n'était pas sur une campagne pour un tome, mais bien deux tomes en même temps. Et c'était ça tout le défi, et les gens ont répondu présent, donc c'est trop bien.
Et alors du coup, donc ça serait une série, logiquement, est-ce que ça serait une série en deux tomes ? Est-ce que tu prévois trois tomes, quatre tomes ?
On part sur six.
On part sur six, ok.
C'est ça, donc là, j'ai du travail. J'ai vraiment du travail.
Donc on est d'accord que là, donc on a ce modèle-là, donc tout par Internet. Est-ce que derrière, vous envisagez aussi des diffusions chez les libraires, des choses comme ça ? Est-ce que c'est prévu ?
Absolument. On a un contrat avec Pollen Distribution. Et du coup, okay. Il y a une sortie, la campagne de crowdfunding. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut un petit peu jauger l'engouement des lecteurs autour de ça. On peut voir un petit peu ce qu'on fait comme événement et comme chose autour. Si on améliore le tome de base, si on fait une édition collector, si on met des goodies en plus. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu la demande qu'il y a au niveau des libraires. Pour pouvoir rencontrer les lecteurs, pour pouvoir faire la com correctement. Et c'est ça qui est super, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur la demande concrète des gens avec un crowdfunding. Du coup, là, avec le succès qu'a eu la campagne en démarrant, là, on va bientôt pouvoir mettre du vernis sélectif sur les jaquettes.
Mais ça, c'est chouette.
Et ça, c'est
le vernis sélectif, c'est la vie.
Ça fait un super bel objet à la fin. Et les lecteurs sont contents, moi, je suis contente. Et ça fait... On met vraiment toutes nos tripes dedans et c'est ça qui est super avec Keep on Dream.
J'ai un doute sur le format, la taille du manga. On est sur un format classique.
Un peu plus grand qu'un format classique. Là, j'ai Gogo Golden Voice dans les mains. Ça va être à peu près, pour ceux qui ont participé à la campagne de Gogo Golden Voice, ça va être à peu près le même format. Mais là, j'ai pas de règles pour mesurer.
Mais on est entre la perfecte et le format classique au niveau de la taille. Quoi. En tout cas,
c'est ça.
Qui ça parle, ouais. Ok. Écoute, si tu veux bien, on se lance dans le manga. Est-ce que tu peux dire de quoi parle Allegoria ? Donc, on est d'accord que c'est un genre plutôt post-apo, parce que tu l'as baptisé au début, mais c'est du post-apo, avec du fantastique. Et puis, y a du pouvoir un peu. Voilà, mm-hmm. Et je vais te laisser en parler, parce que tu es quand même la mieux placée. Et puis après, on va échanger. Et puis, en gros. nous faire un petit pas à pas accéléré comme je peux faire dans le podcast habituel de ce qui se passe en gros dans le premier chapitre. Et puis après, on échange un peu autour de ça et puis on essaie un peu de donner envie au lecteur d'aller participer à la campagne. Et on se garde les petites références pour la fin, si tu veux. J'en ai quelques-unes, même s'il y a un ou deux noms qui ont été name-droppés au début du podcast. Ça fait partie de mes références, mais j'en ai une petite dernière là et je ne sais pas si c'est... Mais on se la garde pour après. C'est une référence plutôt filmique. Voilà, okay. On verra si j'ai tapé juste ou si je n'ai pas tapé juste.
Okay.
Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe dans cette jeune Éléonore qu'on découvre dans le début de ce premier chapitre? Qu'est-ce qui lui arrive et dans quel contexte on est?
Alors, Éléonore est une jeune fille qui a vécu dans un bunker depuis qu'elle est née, mais elle est persuadée que le monde de dehors, contrairement à ce qu'on lui dit, est de nouveau habitable. Donc elle, pendant tout le premier chapitre, ce qu'elle va chercher à faire, c'est de s'échapper du bunker sans que sa grand-mère s'en rende compte. Sa grand-mère, c'est un peu la reine du bunker, c'est elle qui fait la loi. Et elle ne veut pas qu'Éléonore sorte.
Et elle fait peur.
Elle est pas très marrante.
Non, elle n'est pas drôle du tout. Non,
elle n'est pas rigolote. Donc du coup, Éléonore est accompagnée de Nils et Astrid. Nils, c'est un petit peu son mentor, son référent, sa nounou.
Oui, j'avais envie de lui donner un peu le Alfred de Batman, son majordome, tu vois.
Ça, c'est ça.
Ça faisait un peu ça, ouais. Tu vois, pour prendre des références bien mainstream, mais comme ça parle à tout le monde.
Exact. Voilà, c'est un petit peu son majordome, son référent, son meilleur ami. Et puis il y a Astrid, qui est une sorte de mécano qui entretient le bunker avec d'autres, et avec qui ils entretiennent tous les trois une relation, ils sont très proches. Et donc, Éléonore va concocter un petit plan pour sortir de ce bunker. Astrid n'est pas forcément d'accord. Nils, lui, est plutôt d'accord, mais on ne sait pas trop pourquoi il est d'accord. Et en ce qui concerne la grand-mère, on découvre qu'elle n'est pas d'accord du tout, mais pour des raisons qui vont bien au-delà de la sécurité même du bunker.
Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, on ne nous dit pas tout. Et ce que tu peux rajouter aussi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle a déjà un avenir tout destiné, enfin tout tracé, cette jeune Éléonore, puisqu'elle est presque déjà mariée à un personnage ultra toxique.
Oui.
Voilà, on peut le dire, hein, c'est le bon male gaze dans toute sa splendeur.
C'est ça.
Qui fait gentil comme ça, qui fait beau gosse sous ses apparences. Et en fait, c'est un bon petit FDP de toutes les familles, hein, on va se le dire.
C'est ça. Il s'appelle Edgar. Et Edgar, c'est un petit peu le gars. Avec qui Éléonore est censée se marier, avoir des enfants et continuer de vivre dans ce bunker jusqu'à la fin des temps.
Le protégé, le petit favori de la grand-mère, quoi, on va dire.
C'est aussi. Ça. Mais alors lui, c'est vraiment un abruti de première. Et donc elle fait genre qu'elle l'adore, mais elle l'aime pas du tout.
Faut dire qu'elle a un caractère bien trempé quand même. On peut se le dire aussi. Hein. C'est
ça. Après, je sais pas si on peut donner la fin, ce qui se passe à la fin du chapitre. Je pense que c'est déjà assez parce qu'à la fin du chapitre, du coup, il se passe quelque chose qui va du coup embrancher sur tout le reste de l'histoire.
On se doute un petit peu de ce qui va se passer, mais il y a un événement qui va remettre tout en cause. Voilà, on peut laisser les auditeurs sous un petit peu ce suspense. Moi, j'ai une première question. Est-ce que est prévu, parce que moi, je vais remercier ici Kip Ondry de m'avoir envoyé en tout cas le PDF du premier tome que j'ai pu lire. Est-ce que c'est prévu des pages couleurs, en fait, dans l'édition? Voilà, parce que je vous dis, ça manque de petites pages couleurs. Ça sera prévu. Est-ce qu'on l'a déjà dépassé dans le palier ou pas? J'ai pas été regardé.
On a totalement dépassé le palier. Là, actuellement, dans les paliers qu'on a dépassés, on a les pages couleurs.
Ok.
On a... et on a quoi? Et on a le thème. On a un thème musical pour la série.
Oui, j'ai vu ça, par contre. Ça a l'air c'est très chouette, ça. Et on le voit, alors je me permets, dans tes planches de dessin, on peut supposer déjà, je ne sais pas si c'était déjà prévu ou est-ce que tu as redessiné ou tu as refait la couleur après, et on peut supposer quelles vont être les pages couleurs dans ton manga. Parce qu'il y a un ancrage un peu particulier. Et tu sais, c'est comme je dis souvent dans les mangas qu'on peut lire tous les jours, on voit qu'il y a une manière d'ancrer en noir et blanc et on se dit... À mon avis, là, ils ont dû simplement numériser, ils l'ont mis en noir et blanc parce qu'ils n'avaient pas la thune.
Exactement.
Pour le mettre en couleur.
Exactement.
Et tu te dis, ah, j'aurais quand même bien aimé. Donc on se dit, à mon avis, dans le jump, il y avait les pages couleurs. Et il y a le même effet chez toi, en fait. Chez toi, dans les premières pages, on voit qu'il y a une manière d'ancrer qui est un peu différente. On se dit, à mon avis, là, elle a dû utiliser un petit peu de couleur. Mais il n'y avait pas les fonds, donc on est resté en noir et blanc, quoi.
C'est ça. Bah là,
donc elle était déjà prévue à la base.
C'est ça. Vu qu'on a atteint le palier, ça va se faire. Donc, il va y avoir dans les deux tomes des pages couleurs.
Pour donner peut-être envie au niveau de l'histoire aux auditeurs, donc on a cette histoire de bunker justement où elle va s'enfuir et elle va tenter de s'enfuir et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, pourquoi on lui cache l'extérieur. Ce qui peut être intéressant pour teaser un peu les auditeurs, c'est que le titre, il n'est pas choisi par hasard, Allegoria. Alors, ça fait référence aussi, je suppose, à l'allégorie de la caverne. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça aussi, mais ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Est-ce que on voit des choses de l'intérieur, mais est-ce qu'on ne déformerait pas un peu vraiment l'extérieur ? Enfin, toujours le mythe de l'allégorie de la caverne. Mais surtout, tu as mis en place tout un système, tout un build-up au niveau des personnages qui vont avoir des capacités. On ne leur dit pas ce qui va se passer, qui va avoir quoi, mais il y a un système d'allégorie que j'ai, encore une fois, alors, fait une référence un peu mainstream, on va dire, qui me fait beaucoup penser aux haltères de MHA. Je ne sais pas si c'est lié, connecté, etc. Mais c'est peut-être la chose qui, quand j'ai lu le manga, qui me dit c'est ce qui se rapproche le plus, même si ces pouvoirs-là ont vraiment leur propre personnalité, ils n'ont rien à voir avec MHA, je rassure tout de suite, mais c'est pour faire un parallèle, en fait. Est-ce que tu veux en parler un petit peu sans forcément trop déflorer le sujet parce qu'il faut laisser du suspense. Mais voilà, ça va être l'élément, on va dire, qui va être prétexte à faire du combat, du fight et dynamiser un peu les pages, quoi.
C'est ça. Si on devait un petit peu teaser sans trop en dire, je dirais qu'en quelque sorte, Allegoria donc fait référence à un endroit dans lequel Éléonore et les personnages qui vont l'entourer vont aller pour délier certaines choses, délier l'intrigue principale, mais aussi plusieurs intrigues secondaires qui vont arriver au fur et à mesure des tomes. C'est un manga dans lequel il y a beaucoup de personnages qui vont se greffer autour d'Éléonore. Et justement, le concept d'allégorie, donc comme tu parlais de pouvoir, etc., c'est vraiment quelque chose qui va la suivre, qui va suivre les personnages et... Comme tu disais tout à l'heure, l'allégorie de la caverne, etc. À la fin, tout va s'imbriquer pour ne former plus qu'un seul et unique thème qui amènera à se poser tout plein de questions. Du coup, cet endroit, Allegoria, c'est l'endroit où Éléonore va être amenée à aller pour répondre à certaines questions, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dehors depuis le début ? Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas qu'elle sorte ? Est-ce qu'il y a des gens qui la cherchent ? Est-ce que finalement, elle ne serait pas à la recherche de quelqu'un ? Ou de quelque
son passé,
chose.
Tout simplement, parce que son passé c'est est très ça. Mystérieux dès le départ.
C'est ça. Donc, quels impacts vont avoir tous les personnages qui vont l'entourer ? Est-ce qu'ils sont liés à elle ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir leur apporter ou leur prendre aussi ? Donc, beaucoup de questions. Pour l'instant, à la fin du tome 1, pas beaucoup de réponses.
Oui, alors ce qu'on peut dire aux auditeurs, ne vous laissez pas perturber par le tome 1, parce que Charlotte va volontairement vous perdre dans ce tome 1, volontairement vous embrouiller, mais pour au final revenir. Alors, je n'ai pas la suite encore une fois, mais je suppose que derrière, tu vas nous distiller les réponses au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est volontairement, tu fais exprès un petit peu de nous paumer, et puis des fois de rendre un peu le truc un peu complexe pour qu'on se dise « Ah là, j'ai pas tout compris, mais
ça viendra ». En fait, mon but vraiment, c'était de vous mettre à la place d'Éléonore. C'est-à-dire qu'au début, c'est ça un petit peu le tome 1. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, OK, ça va être une histoire post-apo classique. Elle va vivre son aventure, etc. Et on va découvrir le monde. Sauf qu'en fait, en découvrant le monde avec elle, vous êtes totalement largué. Vous vous attendiez à quelque chose. Vous avez quelques repères, mais très vite, vos repères, on vous dit, non, tu pensais que c'était comme ça ? Pas du tout. Pas du tout. Tu pensais qu'on était en telle année ? Pas du tout. Et pas du tout dans cette année. On t'a menti sur toute la ligne. Et en fait, on ment à Éléonore, mais on vous ment à vous aussi dans tout le tome 1. Et donc, ça va être un petit peu à vous de recoller les morceaux avec Éléonore pour savoir qui dit la vérité, qui ment.
Un bon petit jeu de piste comme on l'aimerait. C'est ça qui est c'est vraiment. Ça. C'est ça que j'ai trouvé vraiment. Et c'est pour ça que j'ai accepté qu'on en parle, parce que je vais le dire aux auditeurs. Pour être très transparent, c'est Kip Ondrim qui m'a contacté pour me dire est-ce que ça vous intéresse. Alors, il m'avait contacté une première fois sur une autre œuvre, un petit peu moins, entre guillemets, moins client, parce que ça me parlait un peu moins. Et puis, quand il m'a proposé ton tome, je l'ai lu et j'ai dit bah oui, c'est bon, carrément, je vais faire un truc, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et je te le dis de manière très honnête et très transparente. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait l'épisode aujourd'hui, en tout cas. Ce que je voudrais rajouter, c'est, et peut-être éventuellement pour donner 2-3 petites infos aux auditeurs, là-dessus, alors, est-ce que tu travailles de manière numérique ou est-ce que tu travailles sur tablette ou est-ce que tu travailles sur papier ? J'aurais une tendance à dire que tu es en numérique, Et je me trompe peut-être.
Alors, la première moitié du tome 1 d'Allegoria jusqu'au chapitre 3, tout est fait à la main.
Ok.
Tout est au tradi, sauf que j'avais plus le temps, au bout d'un moment, de tout faire.
Alors, je me permets juste de te couper 30 secondes. Tu as dû passer un temps de malade.
Oui.
Parce que quand même, les premiers chapitres sont ultra détaillés. Il n'y a pas à dire.
Ah oui. C'est beaucoup de hachures, beaucoup de détails. Mais aussi, je travaillais en B4, donc c'est un grand format. Ça me permettait de y aller dans le détail. Et puis, au bout d'un moment, en fait, le fait de faire les planches, de les scanner, de mettre le texte, c'est long. C'est long. Et puis, quand on travaille, parce qu'en plus, maintenant, je travaille avec une assistante, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de travail à côté, vu que j'ai d'autres projets.
Quoi, d'ailleurs, j'ai pas rien. Pour les auditeurs, qu'est-ce qu'elle fait, ton assistante sur, elle travaille sur des décors?
Alors, en ce moment, là, tout de suite maintenant, elle travaille sur les décors du tome 2.
Ok, très bien.
Et là, la semaine prochaine, son programme, c'est colorisation, justement, de certaines pages couleurs pour le tome 2.
Ok, top.
Donc, aussi, parfois, elle fait du script. Quand, par exemple, mon script, il change ou que j'ai besoin de faire quelques corrections, elle prend les documents, elle fait tous les changements à ma place pour que je n'ai pas à y penser. En fait, l'assistante, donc elle s'appelle Laurine, pour la nommer.
Bonjour, Laurine.
Big up à Laurine. C'est vraiment ce genre de personne qui, quand je me lève le matin et que j'ai une liste énorme de choses à faire, que je me dis, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, c'est un petit peu cet ange qui arrive et qui dit, j'ai fait la moitié. C'est merveilleux.
Est-ce que tu bosses aussi sur un système de Nemu aussi, un peu, comme on a appris grâce au manga Bakuman, ou est-ce que c'est vraiment du script et après c'est toi qui laisses libre cours à ton...
Alors, moi, je bosse. Moi, je commence toujours par faire un brainstorming. Donc, je prends mes idées, okay. Je les mets en désordre. Ensuite, je les range dans un Excel pour voir un petit peu quelles sont les étapes. Je montre ça à l'éditeur. Il me dit si c'est nul, si c'est pas nul, si c'est pas acheté, si ce n'est pas le propos. Bref, on en discute. Ensuite, je fais un script. Avec l'éditeur, on regarde le script. Et à partir de ce script, je storyboard. Et une fois que j'ai storyboardé, l'éditeur me conseille, on modifie ou pas certaines choses. Et une fois que tout est validé, de l'ancrage jusqu'au tramage, c'est mon tour. C'est à moi de carburer.
D'accord. C'est à toi de bosser. Puis après, tu disais que sur la deuxième partie, tu es passé du coup à la tablette.
C'est ça.
Je suppose, ok. Mais on voit la petite différence. Donc, du coup, je suppose que sur les tomes qu'auront les auditeurs, est-ce que tu as retravaillé les chapitres qui étaient en version dessinée standard?
Oui.
J'ai passé tout en numérique, donc tu as tout passé en numérique, donc ils ne verront pas cette différence
Alors,
pour le nouveau tome.
En fait, j'ai modifié. En fait, il y a un écart de niveau, parce que c'est quand même des planches que j'ai faites il y a 4-5 ans sur le premier tome. Donc, il y avait quand même un écart de niveau. J'ai modifié certaines choses qui, anatomiquement ou dans la perspective, ne me convenaient plus pour pas qu'il y ait cette sensation de d'un seul coup, j'ai progressé, on ne sait pas pourquoi. Mais sinon, au niveau de la technique, que ce soit au traditionnel ou à la tablette, je me cantonne à 3 brushes sur la tablette qui sont la plume G, le pot de peinture et le feutre, le pinceau.
D'accord.
Exactement comme au traditionnel, ce qui fait qu'au niveau de la technique, du moins, on ne voit pas vraiment la différence.
Alors, si je peux me permettre, moi, la seule différence que j'ai notée entre les premiers chapitres et les derniers, c'est l'ancrage.
Oui.
Un ancrage, je trouve, qui se rapproche un peu de l'ancrage que peut faire Kaneko. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Atsushi Kaneko, mm-hmm. avec des noirs bien appuyés,
oui.
qui ressortent bien. Et je suis assez client, moi, quand le noir ressort bien, tout ça, on voit vraiment
il y a
un bel ancrage.
Des jeux
ouais,
de contraste.
Le contraste entre le blanc et le noir. Et, mm-hmm. et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus frappé, en fait, dans la suite. Et on se dit, ah oui, d'accord, il y a eu un petit changement entre les deux. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt et ce qui peut rendre le truc aussi un peu intéressant, parce que tu vois un petit peu l'évolution du dessin case après case, limite, tu vois.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais parfois, quand je fais des gros contrastes, et ça, c'est un petit peu le truc qu'il ne faut pas dire, mais quand je fais des gros contrastes ou quand je ne mets pas beaucoup de détails sur les visages au loin et que je fais vraiment que des ombres, c'est que je n'ai pas le temps, en fait.
Okay.
C'est stylé, oh. mais...
Mais c'est la magie, hein, à un moment donné. Moi, je me suis fait avoir. Hein. Je ne savais pas que tu étais pressé.
Hein. On est tout le temps pressé quand on fait ce métier. Chaque jour est un défi, chaque jour est une deadline. C'est terrible. Mais bon, c'est comme ça qu'on vit. On n'a pas le choix.
Ce qui peut être intéressant là, pour les auditeurs, c'est un peu de discuter un peu quelques instants aussi sur tes inspirations. Alors,
ouais.
Je pense que la première, et la toute première qui me saute au nez, Et tu en as parlé tout à l'heure, donc tu as confirmé mes idées. C'est, je pense que tu as un petit peu d'inspiration de The Promised Neverland.
Oui.
Léger. Hein.
J'ai eu ma période. Et en plus, c'était pendant que j'étais au Japon. Donc, pendant que j'écrivais le premier chapitre, j'ai eu ma période. Donc,
mais on sent que tu t'en es quand même aussi un peu affranchi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu as gardé ce concept de on vous ment, on vous cache la vérité. On ne sait pas ce qu'il y a dehors. Et moi, je fais un parallèle aussi avec un film. Et je ne sais pas si tu as vu ce film ou si ce n'est pas fait exprès. Mais moi, je pense à 10 Cloverfield Lane. Qui se passe dans un bunker. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais on a un personnage qui est joué par John Goodman qui séquestre en fait deux personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Et tout le long du film, c'est un huis clos, vraiment angoissant, stressant, tout ce que tu veux. On sent que le mec est quand même pas très net dans sa tête. Et les deux personnages tentent en fait à s'échapper de ce bunker parce qu'il leur cache la vérité sur ce qui se passe à l'extérieur en disant qu'il y a des choses terribles qui se passent à l'extérieur. Et au final, bon, je ne vais pas dévoiler le twist, mais il va se passer des choses. Et puis, tu vois, ça m'a fait beaucoup penser à ça.
Je n'ai pas vu ce film.
Quand tu le regarderas, tu verras qu'il y a, des petites vibes. Alors, c'est un huis clos, donc c'est très fermé. Ça n'a pas l'air, il n'y a pas une ville développée souterraine comme chez toi. Parce qu'il faut se dire, toi, tu as vraiment créé un lore en développant une ville souterraine. Ils sont bien équipés, ils ont une bibliothèque. Enfin, tu vois, il y a des choses. Même s'ils contrôlent l'information et qu'ils maîtrisent la diffusion de l'information, ils racontent l'histoire de cette ville par le biais de cette bibliothèque. Et donc, 10 Cloverfield Lane, c'est dur à dire. C'est beaucoup plus cloisonné et ils sont beaucoup plus l'impression qu'ils sont les uns sur les autres, quoi. Ils sont trois, mais tu as cette impression d'être triqué. Donc je te le recommande, si tu l'as pas vu, je pense que tu...
Eh ben, ça m'intéresse, je vais le regarder.
Voilà, je sais pas s'il est pas encore dispo sur Netflix. Voilà, je mets une petite pièce, j'ai pas vérifié, mais je sais que moi c'était à l'époque, je l'avais vu sur Netflix et je crois que c'est une production Netflix.
D'accord.
Pas de bêtises, ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'après, je vois un peu de... Le monde post-apo extérieur, un peu désertique, je vois un peu aussi des vibes un peu Mad Max, c'est un peu facile, mais... Ça fait penser un peu à du
Mad Max. Ça pourrait, mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, je n'ai pas été inspirée par ça. Mais...
Non, mais rapide, voilà. Mais en tout cas, moi, celle que je dis qui m'a sauté aux yeux, c'est The Promised Neverland. Après, peut-être que tu vas peut-être m'en citer d'autres. Je n'en voyais pas d'autres, mais je pense que c'était peut-être ton inspiration majeure, en tout cas pour le début, parce qu'après, on le ressent un peu moins quand même, parce qu'après, tu t'appliques vraiment tes codes à toi et ton histoire à toi quand même, à un moment donné.
De toute façon,
pour faire un copier-coller...
De toute façon, on ne peut pas, comment dire... On ne peut pas créer quelque chose de totalement nouveau. Ça n'existe pas. Un concept totalement nouveau, il ne faut pas essayer de faire ça. Il faut essayer avant tout de faire quelque chose qui nous plaît. Et moi, ce qui me plaisait à ce moment-là, c'était ça. C'était tout ce concept de mystère, de non-dit, de bunker et tout. J'adorais à ce moment-là, la survie me passionnait. Et du coup, j'ai fait ça vraiment dans l'optique de « je vais m'éclater, je vais le faire ». Après, une fois que bon, je vais pas dire ce qui se passe à la fin du chapitre 1, mais une fois qu'il se passe ce qui se passe à la fin du chapitre 1, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre une direction totalement opposée, et je me suis pas dit, ça va respecter tel code ou tel code, je me suis dit, j'ai envie qu'il arrive ça, donc il va arriver ça. D'ailleurs, ça a bien embêté le responsable éditorial de Keep on Dream, parce qu'il s'est dit, ok, dans quelle case est-ce qu'on met ça? Ça parle de quoi? Où va-t-on? J'étais en mode, mais je ne sais pas, je faisais juste ça, comme ça, en me disant, je vais me faire kiffer, et je ne comptais même pas le vendre de base.
C'est là où il y a un intérêt d'avoir un responsable éditorial qui va venir un peu te cadrer et canaliser les idées. C'est un peu le principe, oui, tout à fait.
C'est ça. D'accord. Mais maintenant qu'on a trouvé la direction, le tome 2 va bien se passer, le tome 3 encore mieux, et il y a certains développements de personnages que j'ai vraiment hâte de faire. Ça va vraiment être bien.
C'est chouette, ça. Et donc, on est d'accord que la suite des tomes sera aussi sur un système de crowdfunding. Tous les tomes sortiront sur du crowdfunding. OK. Et dernière question, est-ce que du coup, c'est quelque chose que est-ce que tu arrives à en vivre ou est-ce que tu as quand même besoin d'avoir un métier à côté? Voilà.
Alors,
ça sera la dernière question sur le côté un peu... Tu parlais de survie. le petit lien un peu douteux, mais voilà. Mais est-ce que c'est est-ce qu'on arrive à en vivre justement même avec ce système de financement participatif?
Alors sur Allegoria, disons que si j'avais que Allegoria, évidemment je ne survivrais pas. C'est impossible. Par contre, moi, de base, je suis dessinatrice illustratrice et ça c'est mon métier de base. Donc j'ai d'autres projets à côté. Je prends des commissions. Tout bêtement pour faire des dessins, alors ça peut être je travaille pour des journaux, j'ai travaillé pour des particuliers, pour des anniversaires, des gens qui voulaient carrément des toiles, etc. Je fais aussi des expositions D'ailleurs, j'ai été exposée au Japon il y a un an.
D'accord, super.
Il y a un an, c'est le tableau là qu'il y a derrière moi. Les auditeurs le voient pas, mais je sais pas si
Ouais,
on le
d'accord.
voit. Il est assez énorme.
Ah oui, ok, ouais, d'accord.
Le tableau. Donc voilà, donc je fais des expositions, je fais des interventions scolaires où je bosse avec des enfants, où je leur donne des cours de dessin.
Ça pour compléter et arriver à en vivre au final, quoi,
C'est ça,
de
donc ça,
ton art. Ok.
sauf que ça, c'est pas du tout régulé comme type de revenu. Donc du coup, j'ai ça, mais en plus, j'ai d'autres gros projets, dont un projet que je fais avec le youtubeur Phil Drong. Je ne sais pas si tu connais. C'est un youtubeur qui fait de la stratégie Pokémon, des let's play, qui stream.
Okay.
Et du coup, il a fait un let's play il y a de ça ou là 4 ans peut-être, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, où il jouait à Pokémon dans un style un petit peu particulier, ou avec des défis un petit peu débiles, où ses Pokémon pouvaient mourir, ou c'était très challengeant. Les gens ont beaucoup aimé sa communauté. Et il m'a demandé, on a fait pareil, un crowdfunding pour financer la conception d'un manga autour de ça. Et donc, le crowdfunding a explosé, pareil. Et ça a permis de me payer là sur 2 ans de réalisation pour son manga en 2 tomes.
Alors, j'ai été regarder hein, pendant que tu expliquais le projet. J'ai déjà vu sa tête, donc je connais pas, mais j'ai dû voir sa tête popper sur les réseaux sociaux. Donc, ok, ça me parle. Ouais, donc en fait, oui, je pense que c'est pour arriver en vie, il faut quand même multiplier les projets et à la fin, arriver à se sortir un truc qui permet en tout cas de vivre correctement. Voilà, en mettant en avant sa passion pour le dessin, pour le manga. Et le webtoon, t'as jamais intéressé d'aller sur le webtoon
Alors, j'ai jamais été intéressée pour le webtoon, et pour une raison simple, je trouve que les conditions sont désastreuses pour les auteurs.
Okay.
Je trouve qu'ils sont vraiment, enfin les conditions de réalisation. J'ai vu des collègues se tuer la santé, se tuer les poignets, choper des tendinites de l'extrême, faire des burn-out à cause des conditions de travail et des délais pas possibles. Ça, c'est vraiment une des choses qu'il faut absolument changer dans le métier. Il faut arrêter juste de nous exploiter. En fait, on n'est pas des robots.
Tu soulèves un point très profond puisque avec l'enchaînement, alors, au moment où on enregistre l'épisode, on a perdu un grand auteur qui est Akira
Oui,
Toriyama, pas
c'est ça.
forcément lié à ses conditions de travail, mais
Bah.
est-ce qu'il a payé les conséquences de ses conditions de travail? On n'aura jamais la réponse. Mais malheureusement,
J'en suis intimement convaincue.
ouais, alors il y a une stat qui est sortie qui disent que un auteur au Japon, je ne voudrais pas me tromper, vit 20 ans de moins qu'un japonais classique. 20 ans de moins.
Absolument, c'est
Donc
ça.
c'est assez choquant et c'est vrai que quand on réfléchit à ce rythme de sortir enfin, une vingtaine de pages, un chapitre par semaine qui correspond à une vingtaine de pages, c'est assez affolant quand même dans les conditions qu'ils se mettent et ça fait pas rêver en fait le métier de mangaka et nous en bande de gros neuneux on râle parce que ça sort pas assez vite etc.
Mais oui.
Voilà, c'est pour tout ça pour le passé que je faut vraiment que ces choses qui changent. Je pense que il y a une pression aussi hein, qui est mise sur les auteurs français, mais je pense que c'est rien comparé à ce qu'ils
Non.
peuvent vivre au Japon et dans cette
On n'a pas
pression, surtout
le.
quand ils sont publiés de manière hebdomadaire.
En fait, on n'a pas le même système en France. En France, on marche sur un système. Globalement, on marche sur un système d'avance. On réalise le tome, on a une deadline et on fait le tome en entier. Eux, ils ont un système, comment dire,
Prépublication.
sa prépublication toutes les semaines. Donc le rythme est absolument pas le même. Mais là où les éditeurs ont très bien, malheureusement, très bien fait leur travail, c'est qu'ils ont réussi à nous faire idolâtrer un système de travail qui est tellement aliénant que, comment dire, on est là à se dire, oh là là, trop la classe, il dort que 4 heures par jour. Ah ouais, trop la classe, mais
Je
il
sais pas
meurt à
si, ouais, alors ça, il y a ça. Maintenant, on en prend conscience un petit peu, mais je sais pas si vraiment, tu vois, les gens ont conscience de ça. Ils sont plutôt en train de se dire, chouette, je retrouve mon héros préféré toutes les semaines.
Ouais.
Et c'est le drame quand il prend des vacances. Et c'est vrai on a été mis. Ça sera l'instant polémique en conclusion.
Oui, voilà.
On nous a mis dans une société de consommation, on attend tout maintenant. Regarde, on prend un exemple encore plus simple. On a tous Netflix et on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous mette la saison complète et pas épisode après épisode. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre. On ne sait plus
Oui.
attendre un épisode toutes les semaines. On a besoin d'avoir la saison complète qu'on peut binger. Et en manga, bah, toi, c'est un peu différent parce qu'on attend une semaine, mais moi, je ne lis pas de scan. Donc, ça, au moins, ça règle le problème. Mais oui, ouais, ça, je pense qu'on mériterait, si on veut garder nos auteurs et préserver nos auteurs, il faudrait apprendre à être patient. Voilà.
C'est ça, mais on consomme vraiment comme des pourris gâtés, je trouve, aujourd'hui, l'art en général. On est là, on pense que tout nous est dû, on oublie les gens qu'il y a derrière, ou alors on les oublie pas, on fait genre qu'on les a pas oubliés le jour où ils sont morts. Et c'est ça, moi, pour Toriyama, qui m'a vraiment peinée. C'est-à-dire que tout le monde était là en train de s'émouvoir de la mort de Toriyama, mais de Miura aussi pour Berserk.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est... Les gens qui s'émeut oublient que ils ont été aussi, ils ont fait partie. Attention, je fais des généralités, mais comprenez bien que je suis conscient qu'il y a des fans qui sont bien conscients des conditions de travail et qui sont contre. Mais les gens qui s'émeut sont aussi parfois les gens qui sont là et qui disent moi j'ai pas eu mon chapitre cette semaine, c'est scandaleux, le mangaka est fainéant.
On est peut-être plus le deuxième plus gros marché, mais on reste quand même le deuxième plus gros marché. On est un peu marginal par rapport à ce qui peut se faire au Japon, et je ne suis pas convaincu que les commentaires des lecteurs français aient un impact sur les auteurs japonais. Je pense que c'est tout le système japonais qui met cette pression sur les auteurs japonais qui sont cloisonnés chez eux à travailler et qui vivent dans des fois des conditions un peu particulières. Il fait que je pense que c'est ça qui peut créer ces problèmes associés après derrière. Mais bref, heureusement, on ne fera pas à notre humble niveau. Ce qu'on peut répéter pour résumer et conclure, allez filer découvrir Allegoria. Si vous avez un peu de sous, vous mettez un peu de sous dans le crowdfunding pour justement avoir les mangas. Est-ce que les mangas, petite question toute bête, une fois que le crowdfunding est passé, est-ce qu'on peut quand même malgré tout commander les mangas hors délai du financement participatif?
Oui, ils seront disponibles en librairie en juin, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord, et on peut acheter en ligne aussi, je suppose, sur le site
de Keep on Dream, ils seront disponibles également. Voilà.
Okay, voilà. Donc,
mais c'est toujours mieux de donner pendant le crowdfunding, parce que du coup, ça débloque des choses trop cool, comme le vernis sur les jaquettes, les marque-pages, la bande-son, c'est vraiment trop bien.
Ah ouais, c'est ça, on mettra tous les liens dans la description. Et pour ceux et celles qui veulent découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Je poste beaucoup sur Twitter et sur Instagram, globalement. Charlotte Joriot, tout simplement. Il n'y en a pas deux, normalement.
Tu en mettras forcément aussi tous les liens dans la description. Je fais une petite conclusion à ça. Tu n'as pas pris de pseudo. C'est ton vrai prénom et ton vrai nom.
Oui, voilà. parce qu'ils sont pas très ingrats, ils sont plutôt normaux, plutôt cool, et voilà.
Parce que dans le langage, que c'est une anecdote que j'ai appris là tout récemment, tu as fait une Akira Toriyama.
Du coup, ah bon ?
Oui, c'est une anecdote qu'on doit au très chouette podcast Sumimasen Turbo, qui est présenté par Daniel Andrieff, Grégoire Hello, qui est l'éditeur de Kurokawa, et Nicolas Verlet, Puyo, son pseudo, qui racontait justement, et on conclura par ça, c'est que Akira Toriyama, c'est quelqu'un qui vient de la campagne, qui habite dans une petite commune, il n'a pas habité la grande ville, et que quand il a percé avec Dr. Slump, il dit c'est la seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de ne pas avoir pris un pseudo, et qu'il a gardé Akira Toriyama, et que il s'est pris, tous les gens du village, entre guillemets, pour faire simple, savaient où il habitait, donc il s'est reçu plein de lettres, etc., et ce qui fait qu'il a aussi participé au fait qu'il se renferme sur lui-même et qu'il fasse très peu d'apparitions publiques. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même au sens général, comme beaucoup d'auteurs japonais, c'est des gens assez mystérieux. Et, et je faisais même la blague l'autre jour, c'est qu'en France, quand l'auteur de l'Attaque des Titans est venu, c'était une rockstar. Tout le monde criait « Oh là là, Isayama, Isayama !» Et puis, je suis persuadé que le mec, il va au Combini du coin pour aller acheter ses pâtes. Personne ne le reconnaît parce que... ça se trouve, ils n'ont pas beaucoup son visage, quoi. Alors que nous, on a tendance à les élever dans un rang. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Japonais qui font ça, mais voilà, c'était pour la petite vanne du moment. Merci beaucoup, Charlotte. C'était un plaisir.
Merci à toi.
Voilà, mais c'était cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, on vous encourage à aller participer au crowdfunding de Keep on Dream pour donner de la force à Allegoria. Et puis nous, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Ciao tout le monde !
Au revoir !